Salut Daniel, la clinique de l'Union n'est plus en grève. Quelques négociations sur les délais d'application de l'accord ont permis à la direction de sauver la face, mais nous avons gagné. Les directions nous avaient pourtant assuré que nous pouvions, et je les cite, faire la kermesse pendant 15 jours et que nous ne tiendrons pas 2 jours ratés. Nous avons tenu et nous avons gagné. Vous tous et toutes qui luttez, vous qui vous battez pour la reconnaissance de vos droits, ne baissez pas les bras, ne vous laissez pas intimider par vos directions. Nourrissez vos luttes de vos espoirs, de vos joies, de votre ténacité. La réalité, parfois, se nourrit encore de nos rêves. Salut et à la prochaine.
Bonjour Philippe de Vannes-Morbihan. C'était dingue tous ces gens, 25 000 personnes trempées jusqu'aux os à Cherbourg. Putain, on voit que les gens sont motivés, hein. Ça fait plaisir. Et puis aussi des nouvelles de la planche à voile, le Prao, planche à voile, énergie équitable, qui arrive sur Florès aux Açores et viennent de se prendre presque une branlée de force 8 avec une houle croisée de vagues de 3-4 mètres. Enfin bon, ils doivent être épuisés. Ils devraient arriver ce soir aux Açores. D'ailleurs, si vous voulez suivre l'histoire, c'est transat.equitenergie.free.fr. Equitenergie étant singulier. Le tout en minuscule. Merci à tous. Au revoir.
Nicolas, tu m'as fait peur, Nicolas. Nicolas, tu m'as fait peur. Villepin, il est au tapis avec le CPE. Chirac, avec son sonotone et puis son accident, il est au tapis, il est à out. Nicolas, t'as fait arrêter José Bové par 2 de tes policiers. Tu sais bien, Nicolas, toi qui les pratiques, que les militaires et les policiers, on peut pas avoir confiance. Si jamais ils avaient blessé José Bové, t'étais foutu. Nous, les électeurs de droite, qu'est-ce qu'on faisait? On n'avait plus qu'à voter pour Bayrou. Nicolas, sois prudent. Nicolas, ne fais pas le con. Nicolas, attention.
Donc, c'est un message d'Aurélien. Donc, salut Daniel. C'était pour te dire qu'il y avait une projection au cinéma Le Barbizon. Et surtout une soirée d'information sur le projet de loi CZA demain, mercredi 19 avril à 19h30. Donc, il y aura un petit film d'un peu moins d'une heure. Et puis une présentation et analyse du projet de Sarkozy sur l'immigration choisie par des membres du CIMAD. Voilà, donc cinéma Le Barbizon, 141 rue de Tolbiac, Paris 13e, 19h30 demain. À bientôt, au revoir.
On vit une époque formidable. À Nantes, quand la Poste a besoin de personnel remplaçant, elle fait appel à l'agence d'intérim Manpower. À la distribution du courrier sont embauchées des personnes qui ne connaissent rien au boulot et qui ne reçoivent en général aucune formation. Leurs conditions de travail sont épouvantables. Fin de service à 16, 17, voire 18 heures au lieu de 13. Ces heures supplémentaires ne sont pas compensées. C'est à tel point que certains ou certaines démissionnent ou plantent les tournées en cours de route, ce qui est aisément compréhensible. Du coup, Manpower exige que les personnes qu'elle envoie soient formées. Le hic, c'est que cette formation n'est rétribuée par personne, ni Manpower, ni la Poste. J'ai formé il y a quelques jours un jeune homme et c'est ainsi que j'ai appris cette aberrance. Car non seulement il travaillait avec moi pour la gloire, mais qu'en était-il de la couverture en cas d'accident? Il était tellement content d'avoir ne serait-ce qu'un CDD que ça ne le gênait pas. Habitué à faire des heures supplémentaires non payées dans la restauration, il ne voulait pas faire de vagues. Après avoir gueulé, un syndicat a enfin pris le problème en main. À ce jour, vendredi 14, je ne sais toujours pas si c'est réglé avec la direction départementale. Tout ça pour dire que si personne n'avait rien dit, ce jeune homme se serait fait bel et bien exploiter. Cette formation ne le dispensant pas de faire des heures sup gratos le jour où il se retrouvera tout seul sur une tournée. Ces jeunes ne sont pas des fils de bourgeois, comme disait si bien votre collègue jeudi 13 avril, mais bien des enfants de prolo. C'est dans la continuité en fait de la loi sur l'égalité des chances. Voilà, les capitalistes en rêve, la Poste le rapporte sur un plateau, s'il vous plaît. Allez, ciao et continuez, ça fait du bien de vous entendre. Ciao.
Oui, bonjour Daniel, c'est Alain Dolnay, en 93. Je t'appelle, c'est une petite blague. Alors, c'est deux billes qui se rencontrent. Le premier dit, tu vois, moi, là-bas, ce bison, avec mon arc, je peux le tuer d'un seul coup de flèche. Hop, il arc son arc, toc, il tire, bison mort. Oh, l'autre, il dit, waouh, comment t'as fait, t'es fort, comment tu t'appelles? Buffalo, Bill. Et toi, qu'est-ce que tu sais faire? Alors, l'autre, il dit, baisse son pantalon, il dit, moi, j'ai 15 sexes. Waouh, l'autre, dit, comment tu fais? Rien. Comment tu t'appelles? Chernobyl. Allez, salut Daniel.
Ce qui est irrésistible, c'est l'auditeur qui se marre tout seul avec son Tchernobyl. Bravo. Voyez, si vous écoutez RTL, par exemple, en ce moment, vous avez des blagues comme ça. Et si vous écoutez Europe 1, ben vous avez des blagues comme ça, à peu près. Voilà. C'est assez rare, il faut bien le reconnaître, dans la base où j'y suis. Mais ça ne vous empêche pas. Ça ne nous empêche pas, on est assez fiers aujourd'hui de monter dans les sondages. Figurez-vous qu'en un an, cette émission a 45 000 auditeurs de plus. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à vous retrouver à 17h dans la base, si j'y suis. On est assez content. Voilà, ça va passer. Mais enfin, aujourd'hui, on est assez fiers de nous. Des gens qui sont peut-être un petit peu moins fiers d'eux, c'est les habitants de Nanterre. Enfin, fiers ou pas fiers, il y a une polémique très intéressante qui se profile à Nanterre. Y aura-t-il ou non un collège, un lycée à Nanterre qui s'appellera Abdelmalek Sayad? À Nanterre, Abdelmalek Sayad, c'est-à-dire un nom arabe. Et Nanterre, c'est en France. Alors ça fait une polémique, alors que le lycée n'est pas encore construit ou en voie de il n'est pas encore inauguré, mais ça fait débat. Ça fait débat. Pourquoi ? Parce que évidemment, il y a un collectif qui souhaite que ce nom soit attribué à ce collège, et il y a une partie de la municipalité qui a pour l'air très chaud pour que ce soit le premier collège français qui porterait un nom arabe. Alors pourquoi veut-on dans cette charmante cité de Nanterre donner ce nom d'Abdelmalek Sayad à un lycée ? Pour au moins deux raisons. La première, c'est que Nanterre, eh bien, c'est entre autres, c'était les bidonvilles de Nanterre. Et puis, la deuxième raison, c'est que Abdelmalek Sayad, qui est mort en 1999, fut un très grand sociologue qui s'est penché sur l'histoire du bidonville de Nanterre, des bidonvilles de Nanterre, et qui notamment avait sorti un ouvrage tout à fait retentissant et passionnant aux éditions Autrement en 1998. Par ailleurs, il était l'ami très apprécié de Pierre Bourdieu, et il est pour la communauté, disons, scientifique en France, sociologue, etc., une des grandes figures de cette discipline. Il était algérien, né en petite Kabylie, instituteur, avant de devenir directeur de recherche au CNRS. Et c'est un débat passionnant, figurez-vous, c'est un débat passionnant point qu'il y a une association qui s'appelle Les Oranges et qui promeut une mémoire positive de l'immigration et qui se bat pour que ce collège soit baptisé ainsi Abdelmalek Sayad. Et pourquoi ? Et bien pour des raisons toutes simples. Selon Monsieur Mohamed Kaki, qui est éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse et qui est le fondateur de cette association Les Oranges, il dit les choses comme ça. Il dit l'objectif numéro un, c'est de redonner une fierté à nos enfants. La violence des images renvoyées par les médias à propos de l'islam et du monde arabe leur donne l'impression qu'ils ne comptent pour rien. Or, il y a des hommes et des femmes d'origine maghrébine qui ont participé aux guerres pour libérer la France et qui ont reconstruit ce pays. Et un homme comme Abdelmalek Sayad a contribué à faire progresser la connaissance pour que nos enfants se situent dans une perspective de réussite scolaire. Il faut agir sur le symbolique. On ne peut qu'approuver un si sage discours, sachant encore une fois, je le répète, qu'aucun établissement scolaire en France ne porte de noms arabes, pas même un collège Avicenne ou un lycée Averroès dans notre beau pays. Alors au moment où va commencer la discussion sur l'immigration choisie, il nous a semblé intéressant de revenir avec Dilatebi à Nanterre, pays des bidonvilles, patrie des bidonvilles, pour une contribution à une mémoire. C'est après les messages que voici, que vous avez laissés sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, dont ce message très, très intéressant, très passionnant, en hommage aux Brésiliens, aux paysans brésiliens sans terre qui continuent leur combat.
Oui, c'est à propos du 17 avril, qui est un moment de commémoration pour tous les paysans en lutte du tiers-monde. Le 17 avril 1996 a eu lieu le massacre d'El Dorado de Carajás, avec 19 paysans morts et deux ensuite des conséquences de leurs blessures et 70 personnes qui ont eu ensuite des séquelles. Suite à ce grand massacre qui a sensibilisé l'opinion brésilienne, tous les paysans qui adhèrent à Via Campesina, qui relie les mouvements en lutte à travers le tiers-monde, ont décidé chaque année de commémorer ce terrible événement. Depuis, il y a eu évidemment beaucoup d'autres massacres. Il y a régulièrement des paysans sans terre massacrés par les grands propriétaires terriens. Et à côté de ça, évidemment, les deux colonels responsables du massacre ont été condamnés, qui avaient été condamnés par deux fois, respectivement, à 228 et 159 ans de prison, sont encore en liberté. Dernièrement, la justice brésilienne s'est au contraire bien pressée pour s'est hâtée de condamner des femmes paysannes qui avaient organisé la désobéissance civile, notamment en détruisant une pépinière d'eucalyptus et un laboratoire de recherche génétique de la société Araclos Cellulose, qui organise l'extension des déserts verts. On fait la culture extensive de l'eucalyptus. Et cette compagnie, Aracruz Cellulose, a été impliquée dans l'expulsion d'une communauté indigène. Ces femmes, donc, viennent d'être inculpées, alors qu'il y a à peine un mois que cela s'est passé, ainsi que même les dirigeants internationaux de Via Campesina. Je précise que Via Campesina, la Confédération Paysanne, est affiliée à Via Campesina. Donc, dans l'action du 7 au 8 mars, les femmes, avec pour marquer la Journée mondiale des femmes, avaient donc mené cette opération. La nouveauté réside aussi dans le fait que cette fois-ci, même les dirigeants internationaux de Via Campesina sont appelés à comparaître, comme Paul Nicholson, Henri Sarraig, et tous les inculpés risquent une peine pouvant aller jusqu'à 6 ans de prison, sans compter que pour eux, on demande la prison préventive. Par contre, dans le cas d'Aracarajas, on rappelle que les deux colonels courent toujours. Voilà. Ils ont été arrêtés, mais libérés ensuite. Voilà les deux poids de mesure. Donc, ce 17 avril, à travers tous les pays du tiers-monde, les paysans en lutte commémoreront ce massacre et cette lutte pour reconquérir la terre. C'est Marie-Christine Dodange, de Frères des Hommes. Au revoir.
Bonjour, c'est Caterina. Alors, pour le repère, mardi 18 avril, en Corrèze, à Saint-Pantaléon-de-l'Arche, bar le Crocodile Gourmand, rue de la Mairie, à partir de 20h. Les vieux et les nouveaux repérés sont invités. Au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Dilatébi. Là-bas, si j'y suis, mémoire de bidonville.
Flight number 2, arriving from New York.
Il y a des enfants, il y a une dame là, il y a un monsieur, un grand garçon là, et ça c'est les petits, voilà, ils vivent comme ça. C'est vraiment...
Il faut pas pleurer, monsieur Tellamy.
Je vais prendre un coup.
Là, ça commençait. Là, c'était tout un terrain de bidonville. Voilà, c'est là, les bidonvilles, ça a commencé par là. Là-bas, ce truc là-bas m'intéresse. Ouais. Là-bas, oui, oui. Ouais, c'est génial. Là, tout droit, là, je vois ce mur en briques, là, en face. Mais c'était là que notre petit bidonville était. C'est génial, parce que j'avais l'âge de 7-8 ans. Je jouais à 1, 2, 3 soleils dessus. tapait comme ça au mur. 1, 2, 3, soleil, on se retourne, toutes les copines, elles devaient marcher, hop, s'arrêter quand on devait les regarder. Ouais, ça doit être celui-là.
Ça me rappelle des choses. Le père, il travaille, la mère, elle est à la maison. Et puis les enfants, ils les laissent dehors. Ils y vont pas en vacances, ils vont pas dans les économies de vacances, ils vont pas dans les centres de loisirs. Tout est fermé pour eux. Alors, à qui la faute? Moi, j'ai éduqué mes enfants. Mes enfants, ils ne sont pas des voyous. Mais les écoles, ils étaient fermés pour eux. J'ai un certificat d'études de l'État. Oui.
Les pâquerettes, la folie, les prés, le pont de Rouen, la rue Paradis longtemps. Ces mots jolis désignèrent la galère, la misère des bidonvilles de Nanterre. Mémoire honteuse, pas très fière, refoulement, aucune trace, aucun monument à cette mémoire. Une page douloureuse, comme on dit. Aujourd'hui, les bidonvilles ont disparu en France. La misère est derrière le rideau, sous le tapis, derrière la façade, loin des caméras, bien dissimulées en dessous du seuil de pauvreté. Mais les bidonvilles, en ce temps-là, ça se voyait si on voulait voir. Nanterre, mais aussi Saint-Denis, Champigny, Gennevilliers, en Ile-de-France, un recensement de 1970 révèle 50 000 personnes vivant dans des bidonvilles, rien qu'autour de Paris. Mais il y en avait d'autres, Marseille, Nice, un peu partout. Dans les années 60, on en dénombrait 150 en France. Yougoslaves à Châtenay-Malabry, Tunisiens à Nice, la digue des Français. Mais surtout, c'était les Portugais de Champigny-sur-Marne, près de Paris, et à Nanterre, l'Algérie. Aujourd'hui, c'est au tour des Tziganes de Roumanie, chassés et poursuivis avec acharnement par les amis de Sarkozy. Ils survivent et se débattent dans la même fange, comme des rats dans la boue, les étrons flottants et les bouts de pansement. Bidonville, c'est d'abord cette mémoire pas fière. D'abord, la déchirure, le pays arraché, mutilé et peut-être même trahi. Même si on se raconte qu'on reviendra bientôt là-bas, bientôt. Et c'est ce combat, survivre ici, la boue, la tôle, le cajot, la famille entassée, le carton bitumé qui peut s'enflammer. À deux pas des beaux quartiers, tout ça à Nanterre, c'est derrière l'Étoile, les Champs-Élysées. La lutte quotidienne pour le moindre bout de ficelle, les bagarres, les arnaques, affreux, sale et méchant, n'est jamais aussi bien exploité que par son propre frère. Mais aussi les solidarités immigrées, celles du bled, celles du monde rural et tout ce, quand même, qui est le propre de l'humanité. Et les rêves qu'on fait à travers la buée de l'autocar qui vous traîne au boulot. Une maison, un petit pavillon, un appartement dans un HLM avec un évier, une baignoire et un jour, peut-être, une auto. Il en faudra des privations, des humiliations. Dans les années 70, les bidonvilles ont été éradiquées en France, mais on n'a pas pu les oublier. Aujourd'hui, l'humiliation des parents nourrit la révolte de la deuxième, de la troisième génération. Révolte qui parfois se trompe de colère. Non loin des bidonvilles vivaient des Français, pas moins dans la galère, pauvre contre pauvre. Le pouvoir a toujours été très habile à diviser. Et Le Pen vient s'engraisser sur le racisme populaire. En évoquant aujourd'hui avec Dila les bidonvilles, pas question de culpabiliser, pas question de victimer non plus. D'ailleurs, la concurrence des victimes nourrit le communautarisme qui menace notre douce France. Douce quand même, oui. Douce à certains enfants des bidonvilles qui ont réussi à s'intégrer, à l'avoir, la belle auto. Mais beaucoup moins douce, France, beaucoup moins pour ceux qui sont restés à l'arrière, en galère, galère héréditaire. Et c'est là, c'est par là que passe le fameux repli identitaire. Les bidonvilles ont disparu, mais la ségrégation continue. Les bidonvilles sont dans les têtes. Avec Monique Hervault, nous avons déjà évoqué ces bidonvilles de Nanterre, chronique du bidonville, Nanterre en guerre d'Algérie. Vous vous souvenez, Monique Hervault y a passé des années, au moment notamment de la guerre en Algérie, au temps du 17 octobre 61. Elle était une militante, elle a aidé les gens qui vivaient dans ce bidonville de Nanterre. Mais là, c'est un regard différent, c'est un regard beurre. C'est celui de Dila Tebi qui est allé traîner sur et dans cette mémoire fantôme du bidonville de Nanterre avec une photo à la main. Il a trouvé une photo qui date de 1965 et qui représente ce bidonville. C'est un jour de printemps peut-être ou d'automne. Il fait assez beau, c'est pas ces jours de pluie et de boue. Il y a des enfants, beaucoup d'enfants, une maman, des cajots comme on les faisait à l'époque, un père au loin. Et puis, ces murs de parpaings, de planches, des bouts de fil électriques quand même. Et puis, voilà, c'est sale évidemment, mais c'est là qu'on vivait, c'est là que des milliers d'Algériens devenus depuis Français vivaient. C'est avec cette photo que Dila s'est baladé, espérant trouver ceux qui étaient sur cette photo. Et c'est dans cette image, dans cette mémoire, que nous partons aujourd'hui jusqu'à 18h sur France Inter, la base du 18.
C'est l'école des pâquerettes. Parce que tu vois la sculpture là. La sculpture là.
Ah oui, un monsieur qui. Ah oui, qui lève les bras.
Qui lève les bras, puis il a, je sais pas, un oiseau dans les bras, je ne sais pas.
Ouais.
Cette sculpture, ils l'ont sculptée devant nous, elle grandissait petit à petit, elle prenait forme. Et c'était géant, moi. À ce moment-là, je voyais ça comme un grand truc. Bon, là, c'est pas très grand. Mais ce jour-là, c'était grand, c'était quelque chose de magnifique. C'était bien plus propre là, bon, c'est gris là par le temps, mais c'était tout blanc. Tu vois, j'ai l'impression que c'est ce mur parce qu'il n'y en a pas d'autre. Attends, ouais, moi je pense. Et les HLM là. Et moi, tu vois, mon bidonville était là.
Juste ici là, à la place des arbres.
C'est bizarre. Ah ouais, ils ont bichonné ma petite maison, j'ai l'impression. C'est un petit coin de paradis aujourd'hui, plein de verdure, c'est beau. Donc tous les enfants passaient par ce chemin-là. Il n'y avait pas d'autre chemin. Donc je regardais, là, je espiaguais tous les passagers, là, tous les gens qui passaient à l'école primaire, de mon petit trou de bidonville, et je sortais vers la fin, j'étais toujours la dernière, parce que j'attendais que tout le monde rentrait, pour que je ne voulais surtout pas qu'on me voie sortir de chez moi.
On voyait ceux qui étaient du bidonville et ceux qui ne l'étaient pas?
Ah oui, par les chaussures, hein, on ne pouvait pas cacher notre boue et la boue là, qu'on avait dans nos pieds, là, oui.
Bonjour, il y a un petit curieux là. Vas-y, approche-toi. Tu habites ici?
Oui.
Et est-ce que tu sais ce qu'il y avait ici,
ouais,
avant?
Il y avait du bidonville. Dès que je suis venu, direct, j'ai vu la photo, bah, j'ai su que c'était ça.
Ah, tu le sais?
Bah ouais, je le sais. Ma mère, ils habitaient là avant. Ils vivaient dans la misère et tout. Hein?
Tu dis que ta maman a grandi dans les bidonvilles, alors?
Ouais.
Elle est née ici, dans les bidonvilles?
Ouais,
ou elle est
née en Algérie.
Elle est née en Algérie. Elle est venue avec tes parents, avec ouais, ses parents ici.
Il est curieux. Mais...
Dis-moi, si tu étais un petit garçon comme celui-ci à cette époque, dans cette photo?
Non, non, j'aurais pas aimé.
Et pourtant, ta maman, elle a été marquée par cette vie quand même difficile.
Bah ouais, elle me parle de ça. Elle me parle de ça, quoi.
Qu'est-ce que t'en penses?
Je sais pas. On dirait l'Algérie.
On dirait l'Algérie. Voilà, voilà, la rencontre est faite. Deuxième génération, troisième génération. Naïma va avoir bientôt la cinquantaine. Hein. Elle est née dans ce, elle a connu ce, voilà, ce bidonville de Nanterre. On entendait Faudel auparavant. Faudel, c'est le chanteur du jeune, hein, qu'on vient de rencontrer. Et c'est Dila qui est là avec son micro dans cette mémoire. C'est une mémoire sensible. Tout ne sera pas dit. C'est pas un travail. On n'a pas fait un travail d'historien, ni de ces Français comme Monique Hervault, Tiers-Mondis, qui sont tels. Non, c'est un regard sensible d'aujourd'hui autour de cette photo, donc, qui date de 1965 et qui renvoie à cette mémoire. Vous vous souvenez peut-être du village nègre à Lyon. C'est un reportage qu'on a fait il y a très longtemps et c'est une chose que vous ne pouvez pas trouver à Lyon. C'était un bidonville comme ça, au milieu de la ville de Lyon, où sont passées des générations de gens qui cherchaient à s'intégrer. Ça a été les Italiens, ça a été les Algériens, ça a été, je crois, même les Gitans, qui sont venus les uns derrière les autres. Et puis un jour, on a détruit cet espace, on a construit dessus, mais il n'y a plus aucune trace, comme si c'était quelque chose qu'on voulait, une expérience, pourtant une expérience humaine, qu'on voulait faire disparaître. Et bien, c'est un petit peu ce qui se passe ici avec Nanterre. Sauf qu'évidemment, vous voyez, ce jeune garçon, ça fait partie de sa mémoire, de l'histoire de sa mère et d'une culture.
Et vraiment, on a passé des années très dures, très dures, très dures. Il ne faut pas raconter ça, on ne peut pas raconter ça aux enfants. Parce que c'est des choses pas possibles. Pour vivre ici en France, dans un pays comme ça, avec il fallait, on est venu ici, on ne peut pas trouver de logement, parce qu'on n'a pas les moyens. On ne peut pas habiter HLM. Enfin, quand j'ai habité à Nanterre, il y avait un seul HLM dans tout Nanterre. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des bidonvilles, des chiffonniers, des ferrailleurs, de tout. Moi, j'ai vu tous les bâtiments de Nanterre se construire. Tous, sans exception. Tous les bâtiments, moi, je les ai vus. J'avais compté 59 bistrots qu'ils ont été détruits, supprimés à Nanterre. 59. Alors avant, il y avait les cafés, tous les 400 mètres. Les gens, ils étaient tous alcooliques. Ouais. Il n'y avait que des alcooliques à Nanterre. Avant, j'habitais pas loin de Constantine, dans une banlieue de Constantine. Je faisais la poste entre Philippeville et Constantine pour ramasser le courrier et déposer le courrier. Et je suis arrivé ici au mois de octobre, en 1955, pendant la guerre. Il y a eu le massacre à Philippeville et tout ça. Et moi, je travaillais là. Et ça a tout chamboulé, puis je suis parti de là-bas, je suis venu ici. C'est une grande aventure, grande aventure. Je suis venu à Marseille, et il n'y avait pas d'avion qui venait direct à Paris. Et quand je suis arrivé à Marseille, j'ai pris le train. Et je suis arrivé à la gare de Lyon. Je me rappelle, je suis arrivé à 6h du matin. Et quand je suis sorti, j'ai dit à une dame, j'ai dit « Madame, pour aller à Barbès ». Ah, il me dit, il faut prendre celui-là et celui-là. Et moi, je connaissais le premier temps. J'arrive à Barbès. J'avais une gabardine dans la main, parce qu'il faisait froid à cette époque. Et j'avais faim, j'avais pas mangé. Et j'avais 2 francs en poche. Et je tourne dans Barbès. Je cherche mon beau-père. Où est-ce que je trouve mon beau-père? Et j'ai trouvé un type de mon pays là-bas. On me dit qu'il habite à Nanterre. Et puis moi, je ne connaissais pas Nanterre, tout ça. Bon, il m'a dit, viens, je t'amène, il y a des types de mon pays. Et on a été voir l'autre qui connaissait. Il m'a ramené chez mon beau-père, à la rue Alfred Desquian, dans les Pâquerettes. Et de là, après ma femme allait arriver, on est parti habiter dans l'île Fleurie.
La première chose que les premiers voyageurs de la Terre font, c'est de regarder par le hublot de leur véhicule et de raconter ce qu'ils voient sur la Lune.
It looks like a collection of just about every variety of shape.
Bah oui, 1969. On a marché sur la Lune en 1969. Et tandis qu'on marchait sur la Lune, qu'on regardait nos télés en noir et blanc, incrédules, eh bien, derrière nous, dans notre dos, de l'autre côté de l'écran, il y avait des gens qui vivaient, comme Monsieur Telaoui, dans ce bidonville, celui de Nanterre, comme ailleurs en France, Argenteuil, Gennevilliers, Champigny, et ceux que j'ai évoqués à Lyon, à Marseille ou ailleurs. Alors voilà, on est dans cette mémoire-là, le temps a passé, mais il y a quelque chose qui est resté quand même dans ces et qui se transmet, même si c'est une mémoire dont on n'est pas très fier. Elle le disait tout à l'heure, Naïma, c'était la boue, on était des bouseux. C'est ça les bouseux, être des bouseux, c'est la boue qui se voit aux chaussures. Et on raconte que dans ce bidonville de Nanterre, on faisait des efforts pour la propreté, pour être le plus propre possible, les vêtements bien repassés, les chemises bien lavées, bien nettes, pour justement dominer ça. On n'aime pas être victime, on n'aime pas dire qu'on est. Quand on est dans la merde, comme disait Samuel Beckett, il n'y a qu'une chose à faire, c'est chanter. Et c'est un peu de cette chanson aussi qui se donne à entendre dans ces voix-là, dans celle de Monsieur Telaoui et dans celle de Naïma.
Sur Terre, des millions de téléspectateurs sont les témoins de cet événement. Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité.
Alors là, je voulais vous dire, là, nous sommes dans à Nanterreville, mais j'ai quitté les bidonvilles pour venir justement dans ce quartier. Après les bidonvilles, enfin, on a fait les cités transit qui ne sont pas très loin de chez nous, là. Mm-hmm. Mais après la cité transit, on a fait les HLM. Je vais vous montrer là, de ma fenêtre. Par là. Cette tour là, juste là. La tour qui est là, juste en face de la tour où je suis aujourd'hui. Et pas loin, il y a le lycée, le collège André Doucet. Ben là aussi, j'ai inauguré ce collège. Et aujourd'hui, mes enfants l'ont fait, donc c'est génial. C'est une deuxième génération qui passe par là. Moi, j'ai habité au 102 rue des Pâquerettes, dans un bidonville un peu plus sale que celui-ci, parce que sur la photo, les rues sont propres, les maisons sont bien bâties. Alors que là, il y a de la pierre et chez nous, c'était plus de la tôle et du bois. Il y a beaucoup d'enfants. C'est vrai que les enfants n'avaient pas de parc, n'avaient pas de lieu pour s'amuser. Donc, ils étaient devant les portes des maisons, dans les petites ruelles, là. Bon, nos mères ne sortaient pas seulement pour aller appeler un de ses enfants, là, comme cette mère. Sur la photo, il y a une jeune fille, là, de dos. Eh bien, franchement, ça me rappelle un petit peu moi. J'avais mes deux petites nattes comme ça. Sûrement, je devais tenir mon frère de la même façon, parce qu'on était déjà très responsables de nos frères et sœurs. Mais je ne pense pas que ce soit les bidonvilles des pâquerettes. Il y en avait plusieurs sur Nanterre. Non, il ne me semble pas que c'est les pâquerettes, parce que d'abord, le parterre, il est presque goudronné. Enfin, il a été un peu travaillé, alors que nous, c'était de la boue. Hein. On en avait jusqu'aux chevilles de la boue. On rentrait à l'école, enfin on sortait de nos maisons, on avait plein de boue dans nos pieds, on rentrait avant d'arriver à l'école, c'était une humiliation, et puis un calvaire de d'essuyer ses chaussures et puis rentrer en classe avec cette saleté. Oh, c'était pénible parce qu'on faisait tout pour être propre et belle, mais la boue, on n'avait pas d'autre solution. Hein. On arrivait avec notre boue dans nos chaussures. Avaient migré en Tunisie par rapport au travail. Il n'y avait pas de travail en Algérie, ils ont été en Tunisie. Et puis mes parents sont nés là-bas et ont grandi là-bas. Et puis nous, les quatre filles, et puis un garçon, on est nés là-bas. Et de la Tunisie, quand l'Algérie a eu l'indépendance, on est rentré une année en Algérie. Et puis il n'y avait pas de travail. Donc papa, avec ses deux frères, il est arrivé en France. On a suivi avec maman 4-5 ans après que papa soit venu à Paris. Alors, je suis arrivée au mois d'avril 64. On a pris l'avion, on avait rencontré une autre famille, justement, qui allait habiter aussi dans les bidonvilles. Et puis, maman s'était fait belle, et puis nous aussi, avec des petites sandales, des petites... C'était la fête, hein, on allait en France. On a pris l'avion tard, papa était venu nous chercher, puis l'avion a fait du retard, donc il est retourné à la maison. Et de l'aéroport, on a pris un taxi qui nous a amenés dans les bidonvilles. Et mes petits pieds, là, qui devaient faire du 30 ou du 28 de pointure, quand je suis descendue du taxi, mon pied était rentré dans la boue. Et là, c'était l'horreur. J'ai hurlé, j'ai pleuré. Et puis ça sentait mauvais, la gadoue, là, et tout ça. Et là, ça a été le cauchemar. On s'est posé des questions, mais sans les poser à nos parents. C'était toujours intérieur, c'était toujours dans notre bulle. Là, on vivait ce drame, ce malheur, là, ce déchirement. Ensuite, on est arrivé dans notre bidonville. C'était une petite pièce. Papa n'avait pas trouvé un truc grand. Donc, mes parents avaient un lit à deux places. Et puis, derrière le lit, ils avaient mis un rideau pour avoir un peu d'intimité. Et puis, il y avait un matelas à côté. Et on était alignés comme des poussins, là, les uns contre les autres. On était petites, donc on pouvait facilement nous caser. Donc, voilà, on est restés au moins 2 ou 3 ans là. Jusqu'au jour où papa, il avait trouvé un appartement, enfin un pavillon. C'est bizarre. Une baraque. Avec une grande surface. Donc la surface était un grand carré, puis maman elle avait aligné les lits en fer l'un sur l'autre, et avec un poêle à mazout à côté. Donc c'était sympa le soir pour avoir des odeurs. Et puis j'avais une marmite d'eau toujours qui était sur le poêle à mazout là-dessus, qui devait être toujours là pour avoir de l'eau chaude. Ça m'a marqué parce que le jour où j'ai eu la fin de l'année, on distribuait des prix comme ça, et puis je devais m'habiller pour aller recevoir mon prix. J'ai fait un cauchemar ce soir-là, je me suis crue à la piscine. J'ai fait un plongeon de mon lit, là, superposé. Je me suis retrouvée par terre avec la marmite d'eau, c'est écrasé, là. Puis j'avais le front tout amoché, le nez comme ça, et puis bon, j'ai pas été chercher mon prix.
On va se promener aux pâquerettes.
Aux pâquerettes, dans le quartier des pâquerettes, là où il y avait les bidonvilles. C'était 102 rue des pâquerettes. Et puis après, il y avait le numéro de la porte. Mais moi, je ne me rappelle pas de ma porte.
des milliers. Ils ont été comme Naïma à passer par ce bidonville de Nanterre, au 102 rue des Pâquerettes. Il y a un texte magnifique dans la collection Autrement, un Nanterre algérien, terre des bidonvilles. Un texte d'Abdelmalek Sayad, le sociologue ami de Pierre Bourdieu, qui a consacré une étude absolument superbe à ce lieu, qui méritait un regard aussi pertinent, scientifique, mais avec une affection, il y a une tendresse quand même dans tout ça. Il y a un amour fou hein, dans ce que dit Naïma pour l'école, pour la République, parce que ça a été quand même le moyen. Ça a été le moyen de s'en sortir. Ça a été le moyen de s'intégrer. Et là, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne s'est pas intégré. Et puis, voilà, ça, on parle d'une époque qu'on appelle aujourd'hui les 30 Glorieuses, hein, qui vont de 45 à 75. Alors, il y avait les bidonvilles, mais d'autres vivaient dans ces mêmes difficultés. J'ai évoqué les Portugais, on aurait pu remonter auparavant aux Italiens de Nogent-sur-Marne. Hein. Souvenez-vous du bouquin magnifique, L'Hérital de François Cavana. Et puis, l'immigration intérieure. Et oui, on a des ancêtres, si vous êtes breton, si vous êtes auvergnat, si vous êtes comme mon grand-père à moi, savoyard, ils ont vécu la même chose, leur montagne, leur campagne, et puis venir vers la ville, vers les villes, et venir vers Paris. Les maçons de la Creuse vivaient dans le centre de Paris dans des conditions qui n'étaient pas meilleures que celles de nos amis algériens à Nanterre. Hein. Vers Maubert, Mutualité, il y a des textes, des témoignages, des conditions dans lesquelles vivaient les maçons de la Creuse, ceux qui ont construit notre Paris d'aujourd'hui, celui d'Haussmann, et dont la vie n'était pas enviable. C'est ces immigrations, ces couches d'immigration successives, ces expériences successives qu'il faut avoir présentes à l'esprit, parce que on les oublie, on n'est pas très fiers de tout ça, et on a grand tort. C'est pourquoi on se balade avec l'ami Dila Taïbi et sa photo à la main, sa photo de 1965 du bidonville de Nanterre.
Là, on entre dans le dispensaire, le centre de santé.
Oui, le centre de santé des Pâquerettes.
Comme à l'époque. Rien n'a bougé.
Rien n'a bougé. La brique rouge, là, est toujours là. C'était là où on est venu se réfugier lorsqu'on a eu l'incendie des bidonvilles des Pâquerettes. Et je pense qu'il y a un sous-sol, là. Par là, ça doit donner à un sous-sol. Voilà, il y a des escaliers. On descend et puis... Là, c'est fermé. Ouais. Et il y a un grand dortoir comme ça. Toutes les familles étaient là... C'était pendant le mois du Ramadan. Et pour moi, c'est un grand souvenir parce que ça a été mon premier jour du mois du Ramadan. La première fois où je jeûnais. Là, il y a eu l'incendie et le soir, il fallait rompre le jeûne. Et maman s'occupait plus de nous parce qu'on était beaucoup en panique, à courir dans tous les sens. Là, nous avons eu des amis français qui habitaient les bâtiments pas loin des bidonvilles, qui sont venus secourir certaines familles, qui nous ont ramené du lait, des dattes. Et quand j'ai bien mangé, je me suis rappelé que j'étais à jeun, je devais être à jeun. Et puis là, j'avais mangé. Alors, comme c'est que j'avais pêché, j'étais en courant voir maman et puis en pleurant. J'ai mangé. Elle me dit, mais ma fille, c'est pas grave, c'est l'heure de manger, c'est bien. Et on m'a dit dans la famille, il faut plus que tu fasses le ramadan parce que c'était une mauvaise journée, ton premier jour de ramadan.
Le paquebot France est lancé. Il a épousé la mer. La mer, tant redoutée et tant désirée des peuples, la mer qui sépare les nations et qui leur permet de se joindre, la mer par où les pires dangers peuvent menacer les États, mais sans laquelle il n'y a pas de grandeur. La mission du navire France sera de transporter d'un bord à l'autre de l'Atlantique des hommes, c'est-à-dire des pensées, et des activités, des foyers de connaissances et des sources de travaux, de l'art et de la richesse. En tout temps, un pareil rôle aurait été tenu pour important. Aujourd'hui, il l'est plus que jamais. C'est en effet des rapports entre nos semblables, autrement dit des échanges, que procède la civilisation. C'est par la connaissance réciproque des pays, par les contacts humains, que le progrès de notre espèce peut se poursuivre. Et c'est pourquoi, de tout notre cœur, nous adressons nos vœux aux navires qui se portent vers l'océan pour transporter des hommes et accomplir sa destinée.
Ne faites pas de rêves médiocres, ce sont les plus difficiles à réaliser. On attribue cette phrase à De Gaulle. En tous les cas, c'était bel et bien lui qui parlait ainsi de la mer et du paquebot. Évidemment qu'entre nos deux rives, cette voie était nécessaire, utile en tout cas pour éclairer cette balade et cette photo aussi, cette photo qui date de 1965, photo prise dans au bidonville de Nanterre et que Dila a montré à des gens. Vous avez vu Naïma, formidable, elle analyse toute la photo, elle s'y retrouve pas, oui, non, etc. Ça nous permet d'évoquer cette mémoire immigrée. Voilà quelqu'un d'autre qui a vécu là, qui s'appelle Brahim Ben Aïcha. Brahim Ben Aïcha, il est aujourd'hui expert comptable, il est professeur de judo, il est écrivain. Il a écrit un livre formidable qui s'appelle « Vivre au paradis » où il a raconté comment parti de l'oasis de Guémar dans le sud-est algérien, et ben avec sa famille, il s'est retrouvé dans ce bidonville de Nanterre, Brahim Ben Aïcha.
Tu me demandes ce que m'évoque ou m'invoque cette photo. Cette photo, elle est magique. C'est la vie, c'est l'espoir, c'est l'avenir. Il n'y a quasiment que des enfants en dehors d'une mère de famille. Il n'y a que des enfants. Celui-là, par exemple, celui qui est...
Avec ses bottes et puis il bombe le torse.
Les poings serrés, il doit avoir 2-3 ans, 3 ans et il fait face à l'avenir. Il y en a un, là c'est une grande sœur qui prend, à mon avis c'est un nourrisson de 4, 5, 6 mois ça. Cette photo c'est les enfants, moi ce qui me marque c'est... Je ne vois même plus, pour moi le bidonville là il devient accessoire.
Mais toi Brahim, tu as quel âge maintenant?
Je vais avoir 51 ans, j'ai 50 ans et demi. J'avais 8 ans moi quand je suis arrivé au bidonville. Donc,
toi justement, t'aurais pu être un de ces enfants photographiés là.
Totalement, j'aurais pu être celui-là ou celui-là.
Les mains dans les poches.
Oui, les mains dans les poches.
Et tous ces fils là, c'est...
Quand l'électricité est apparue.
Est-ce que c'était comme ça ou pas crête?
Oui. Et ça, c'est les gens se passent les fils de baraque en baraque et c'était 10 francs la lampe et par mois. Alors le compteur disjonctait de temps en temps, ça hurlait, ça. La baraque du responsable du compteur devenait un lieu de manifestation.
Est-ce que
Il y avait des vacances scolaires, donc là, oui, les vacances scolaires, on avait un petit terrain comme ça, vague, et on replétait les bidonvilles. On se construisait encore des petites baraques avec des cartons, des cajots. On se faisait des petites maisons, et puis on allait ramener du petit linge de la maison, un petit oreiller. Et on rejouait le rôle de la maman, comment elle faisait dans les bidonvilles, on répétait ses petits bidonvilles à nous. La circoncision, par exemple, c'est un rituel comme ça. On déguisait l'enfant, on dansait, on chantait nos chants avec des femmes, des madahet dans le temps. Aujourd'hui, il y en a une qui est décédée. Mais c'était pour moi génial, ça. C'était, d'ailleurs, je n'ai pas connu ça en Algérie, je l'ai connu en France. Et j'étais très, très demandeur de ça. Alors, j'allais avec maman tout le temps. Et heureusement, il y avait ces fêtes-là pour égayer un petit peu les bidonvilles. Les gens, malgré ça, se mariaient. Il y avait comme ça un souvenir d'un mariage, parce que dans le temps, il y avait très peu de gens qui avaient une voiture. Alors, il y avait un papa qui avait marié sa fille, comme ça, et des bidonvilles, ils allaient habiter, je ne sais plus, dans une autre ville, disons Gennevilliers, comme ça. Et bien, qu'est-ce qu'il a fait pour inviter tous ses amis des bidonvilles? Il a loué, tu sais, un car municipal. Alors, tu vois la mariée, sa robe de mariée cortège, là, tu sais, au fond du car. Voilà, elle était assise avec son voile et tout. Puis tous les bidonvilles, on était assises dans le car. On faisait la darbouka là et tout ça. Ça, c'était un moment extraordinaire. Et là, c'était la promenade dans le car. C'était génial. Comme dans un film. Tu peux pas dire que c'est de la réalité, ça. Tu peux pas voir une mariée dans un car municipal, tu vois. Les cars municipaux, c'était pour aller, tu sais, encore une vacance, des choses comme ça. Mais alors, voir la mariée dedans, et puis avec les papas et les mamans, et ça, c'était, je sais pas, ça faisait partie d'une vie comme ça. Toujours, tout était bizarre.
Merci Naïma, merci à tous. C'était un reportage de Dila Tebi. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France à la rubrique émission Là-bas si j'y suis. Vous avez compris que c'était un hommage, cette heure que nous avons passée à Abdelmalek Saya, dont on espère que le nom figurera au fronton de ce collège à Nanterre. Technique aujourd'hui Ludwine Caron et Ludovic Asselot. Cette émission a été réalisée par Antoine Chao et Yann Chouquet, assisté de Pascal Le, Pascariello et de Raphaël Moutarde pour le répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37. Pas de panique. Christophe revient bientôt. Il est en vacances, tout simplement. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Réclame.